Radio Vaillant, la radio qui donne la pêche.
Radio Vaillant, la radio des miaou, miaou, miaou.
Bienvenue sur Radio Vaillant, la radio du collège Édouard Vaillant.
Radio Vaillant.
Radio Vaillant.
Radio Vaillant.
Radio Vaillant.
Radio Vaillant.
Merci de nous écouter sur Radio Vaillant.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la toute première émission de 2026. Bonne année à vous tous et meilleurs vœux. On commence tout de suite par vous présenter le sommaire.
Dans cette émission, vous écouterez une chronique sur le Japon, puis poursuivra la chronique Mercedes-Benz et AMG du tout nouveau groupe RSG qui vous accompagnera tout au long de l'année.
Vous écouterez aussi l'histoire du foot, puis poursuivra une chronique littéraire contenant une histoire sur les chats. Mais on commence tout de suite par la chronique Demon Slayer. Bonne écoute.
Bonjour à tous, nous nous appelons Céleste
et Maya.
Aujourd'hui, je vais vous présenter le manga Demon Slayer. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé. C'est un manga qui se passe dans le Japon ancien. C'est une histoire qui suit le jeune garçon Tanjiro et sa sœur qui est un démon, Nezuko. Les parents des deux frères et sœurs se font tuer au début de l'histoire et, par un démon. Et leur but sera de tuer des démons et de tuer le roi des démons. Et ils vont rencontrer tout au long de l'histoire deux personnages, Zenitsu et Inosuke, qui vont les suivre pendant toute l'histoire. Et toi, Maya, qu'en penses-tu de ce manga ?
Moi, j'aimerais parler du style. Bah, déjà, c'est un shonen qui regroupe les mangas d'action, de justice, etc. Le genre se rapproche des aventures, du surnaturel. On retrouve beaucoup de décors japonais, comme des temples, des bambous, comme tu l'as dit. Comme c'est un shonen, les traits sont assez gras, limite épais. Moi, j'aime vraiment bien le manga. Et toi ?
Moi, je vous le conseille, je l'adore.
C'était Maya et Céleste pour une chronique sur les mangas. J'espère que ça vous a plu. Merci.
Merci.
Un grand merci à Maya et Céleste. On va maintenant vous présenter une chronique sur le Japon avec Louise et moi, Madeleine. On va vous présenter le Japon en trois parties. Les yokai, les maisons et la nourriture. Bonne écoute.
Bonjour à tous et à toutes.
Je m'appelle donc Madeleine et je vais vous parler des yokai. Les yokai sont des créatures qui sont très présentes dans les religions, les temples et toutes les cultures au Japon. Ils sont représentés par des animaux, des personnes, des objets ou même des créatures totalement inventées. Des croisements d'animaux et d'humains par exemple. Selon certaines croyances du Moyen-Âge, le roi des yokai, il criait, chantait et faisait un raffut de tous les diables dans la ville. Il ne fallait surtout pas les regarder. Ceux qui ne respectaient pas cette règle mouraient ou disparaissaient. Je vais maintenant vous parler de trois yokai qui sont extrêmement présents au Japon et qui sont vraiment des stars. Le Kitsune, le Tanuki et le Kappa. Commençons par le Kitsune. Le Kitsune est un renard qui peut avoir de 1 à 9 queues. Les Kitsunes à 9 queues sont les plus puissants et ont inspiré pas mal d'animaux légendaires comme des Pokémon. Ils aiment beaucoup faire des farces et bien qu'ils soient normalement assez bienveillants, ils peuvent aussi être légèrement agressifs si on leur fait du mal. Passons ensuite au Tanuki. Le Tanuki, c'est le chien riverain. Il est souvent représenté par ses testicules phénoménaux. Il peut s'en servir de couverture, comme tambour ou encore comme parachute. Le Kappa à présent. Le Kappa a une grande carapace de tortue sur le dos, est ouvert et à peu près la taille d'un homme. Il a un trou dans la tête avec de l'eau dedans. Pour s'en débarrasser, rien de plus facile. Il suffit de le saluer à la japonaise. Le Kappa, qui est très poli, vous rendra l'appareil. L'eau qui est dans sa tête et qui représente son essence de vie se videra et il mourra. On peut aussi le faire fuir, il suffit de péter, il est très sensible au gaz d'épais, ou encore lui donner du concombre. On dit qu'il préfère peut-être ça aux entrailles humaines. Voilà, j'ai fini de vous parler des yokai. Je laisse maintenant la parole à Louise.
Bonjour, je m'appelle Louise et je vais vous parler des maisons et du quotidien au Japon. Les maisons traditionnelles au Japon sont créées à partir de matériaux naturels comme du bambou, du bois ou de la pierre. Dans chaque maison, on trouve une pièce destinée aux offrandes. Au Japon, les toilettes sont très particulières. Il n'y a pas de papier toilette car elles ont des boutons faits pour ça. Et également pour les chauffer. La douche, elle, se fait comme une douche normale. Mais après, vous pouvez prendre un bain. Mais seulement après vous être bien nettoyé, car l'eau du bain sert pour toute la famille. Le respect, c'est vraiment quelque chose de très important là-bas. Que ce soit à la gare, au restaurant, dans la rue ou à l'école, le Japon fait très attention. On est toujours poli et sage. On s'incline souvent au Japon pour montrer notre respect, pour dire bonjour, pour remercier ou pour dire pardon. Merci d'avoir écouté. Je laisse maintenant la parole à Louise.
Bonjour, je m'appelle aussi Louise.
Je vais vous parler de la nourriture au Japon. Sachez qu'au Japon, ne pas finir son repas ou laisser un pourboire est un manque de respect pour les Japonais. Aussi, au Japon, la nourriture la plus réputée, c'est les sushis. Une petite nourriture faite à base de riz et de poisson cru. Les sushis sont apparus d'abord en Asie du Sud au 3e siècle, arrivent au Japon vers le 8e et 10e siècle. Ensuite, parlons des mochi, un dessert sucré à base de pâte de riz. Moi, j'aime pas trop ça. Bref, pour cela...
Moi, j'adore.
C'est là que les jours de fête, on offre des mochi comme un aliment sacré.
Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
Merci à Madeleine et aux deux Louise pour cette superbe chronique. Tout de suite, une chronique qui s'annonce intéressante sur AMG. Mais je vous laisse avec Samy et Raphaël qui vont vous en parler mieux que moi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle partie préférée de l'émission. Notre groupe RSG, qui contient Raphaël et Samy, vous présente le constructeur Mercedes-Benz et AMG.
La grande et magnifique histoire de Mercedes-Benz commence avec deux génies allemands. Karl Benz, inventeur du premier véhicule à moteur au monde, qui est le Benz Patent Autowagen, 1886. Gottlieb et Wilhelm Maybach, qui, à la même époque, construisent un petit moteur à essence et créent le Daimler Motorwagen Geschäft. Ces deux pionniers travaillent séparément, mais leurs inventions allaient poser les bases de l'automobile moderne.
Partie 1. La naissance de Mercedes-Benz.
Après la Première Guerre mondiale, la situation économique allemande pousse les deux inventeurs à fusionner. Ainsi, en 1926, naît officiellement Mercedes-Benz et son célèbre logo, l'étoile à trois branches. Un peu plus tard, en 1930, Mercedes-Benz entre dans la légende. La Mercedes-Benz S40K devient un symbole de luxe absolu. En sport automobile, les fameuses flèches d'argent, modèle argenté du sport qui dominait les autres concurrents sur piste, étaient devenues une véritable machine de guerre. Et, après la Seconde Guerre mondiale, Mercedes-Benz reconstruit ses usines détruites et revient en force avec la 300 SL Gulling, qui est aussi considérée comme la première supercar au monde.
Partie 2. Le prestige de Mercedes-Benz et l'arrivée d'AMG.
Pendant des années, Mercedes-Benz est synonyme de luxe et de prestige. 1960. Cette date, elle est très importante, car elle annonce l'arrivée des deux ingénieurs qui vont donner leur nom à leur nouveau garage, AMG. Ils vont travailler à Stuttgart sur les moteurs de course pendant 7 ans en admirant les exploits de Mercedes-Benz. Mais quand Mercedes-Benz se retire de la compétition, ils refusent de voir perdre leurs idoles. Alors, en 1967, ils créent officiellement AMG. Leur but, c'était de préparer les voitures de Mercedes-Benz pour la course. AMG se fait connaître en 1971 quand leur Mercedes-Benz soit un énorme monstre rouge de 1,6 tonnes termine deuxième aux 24 heures de S.PA. Ce fut une surprise totale, une berline de luxe battant des voitures de course légères. Résultat, AMG devient célèbre du jour au lendemain. Face à ce succès, Mercedes-Benz comprend qu'il vaut mieux collaborer que rivaliser. Alors, en 1996, un accord officiel est signé. AMG devient le préparateur exclusif de Mercedes-Benz.
Partie 3. Aujourd'hui et le futur pour Mercedes-Benz et AMG. Les nouveautés prévues pour la fin d'année contiendra la très attendue Mercedes CLA de 3e génération, dévoilée au printemps 2025. Elle sera un modèle familial 100% électrique, avec modèle coupé annonçant jusqu'à 792 km d'autonomie, allant de 0 à 100 km/h en 4 secondes 9. En 2026, Mercedes-Benz proposera plusieurs restylages concernant la classe C, S et leur déclinaison Maybach, ainsi que les SUV GLE et GLS, eux aussi accompagnés de leur version Maybach. Pour ceux qui ne savent pas, Maybach est tout simplement la version extra-luxueuse des modèles Mercedes-Benz. Puis, en été 2026, sortira très probablement le modèle zéro émission d'AMG, le classe V. Ce fameux classe V sera entièrement renouvelé. La version thermique conservera son nom, tandis que ses variantes 100% électriques s'appelleront VLE et VLS, cette dernière reprenant l'esprit haut de gamme du concept Vision V. Et pour 2027, Mercedes-Benz lancera plusieurs nouveautés 100% électriques. Comme pour la classe C, la marque proposera donc deux gammes parallèles pour son autre berline, thermique et électrique. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, merci à l'équipe technique, et si vous n'avez pas compris cette chronique, passez à la suivante. Voici la chronique littéraire et chat présentée par Cassandre, Claudio et Camille. C'est à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique littéraire. C'est Cassandre qui vous parle. Avec moi, il y a Claudio et Camille.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous allons faire une présentation de livres de différents types. Le titre de mon livre est Fairy Tail. Ce manga a été écrit par Hiro Mashima et illustré par Atsuo Ueda. Ça a été diffusé en 2009 et je vais vous résumer. Ça se déroule dans un monde de magie, le royaume de Fiore. Dedans, il y a des gens maîtrisant la magie, les mages. Chaque mage est obligé d'avoir une guilde. Une guilde est un groupe de beaucoup de mages avec un maître, la dirigeant. Nous allons nous intéresser à une guilde en particulier, la plus puissante de Fiore, Fairy Tail. Une jeune fille blonde appelée Lucie, qui vient tout juste d'entrer dans le monde de la magie, veut et va intégrer la guilde de Fairy Tail. Et elle va sympathiser avec Natsu, un jeune chasseur de dragons de feu, et Happy, son chat anthropomorphe bleu capable d'avoir des ailes. Tous deux font partie de Fairy Tail, c'est d'ailleurs grâce à eux que Lucie a intégré Fairy Tail.
Merci Claudio, mais peux-tu nous dire ce qu'est un chasseur de dragons ?
Un chasseur de dragons est un mage utilisant la magie anti-dragon. Il y a trois générations de chasseurs de dragons. La première, qui ont eu leur pouvoir directement des dragons. La deuxième, qui ont eu leur pouvoir anti-dragon via un lacryma dans le corps. Et la troisième est un mix des deux premières, qui ont eu leur pouvoir via un lacryma et des dragons eux-mêmes.
Tu peux nous expliquer quelle est la magie utilisée par Lucie ?
Lucie utilise la magie des constellationnistes. Les constellationnistes sont des mages qui utilisent la magie des 12 portes du zodiaque.
Merci, c'est maintenant au tour de Cassandre.
Mon livre s'appelle Gardien de cité perdue. L'autrice s'appelle Shannon Messenger. Elle est américaine. C'est un gros roman qui raconte l'histoire d'une fille appelée Sophie qui, à 12 ans, va découvrir qu'elle n'est pas humaine, qu'elle est une elfe. Fitz, le garçon qui lui apprend la nouvelle, l'emmène à Eternalia, la capitale des elfes, aussi connue sous le nom de Shangri-La. Elle devra oublier sa famille et se faire une place dans ce monde. Elle se fera des amis comme Dex, Bianna, Fitz, Marilla et Keith. Mais elle est aussi la cible d'un mystérieux groupe appelé les Invisibles. Ces créateurs du groupe, le Cygne Noir, la surveilleront de près. Dans un monde où se mêlent aptitudes magiques, créatures disparues et imaginaires, et pouvoirs extraordinaires, qu'adviendra-t-il de Sophie et de ses amis ? Et surtout, qui sont ces mystérieux groupes appelés le Cygne Noir et les Invisibles ? Pour le savoir, il faudra le lire.
Comment Sophie va-t-elle faire pour que sa famille humaine l'oublie ?
Alden, le père de Fitz, va lui proposer de faire croire à sa famille qu'elle est morte. Mais Sophie, craignant pour leur santé mentale, demande à Alden de l'effacer de leur mémoire, de retirer le moindre souvenir en rapport avec elle.
Quel type de créature et d'aptitude magique y a-t-il dans le monde des elfes ?
Comme créature, il y a deux types. Les créatures créatures intelligentes, gobelins, ogres, trolls et elfes. Quand je dis créatures intelligentes, ça veut dire qu'ils peuvent parler et ils peuvent inventer des choses. Comme créatures normales, il y a les T-Rex, les licornes, les yétis et les tigres à dents de sabre. Comme aptitude magique que chaque elfe peut faire, il y a la canalisation interne, la télékinésie, la vision nocturne. Alors il y a aussi le pouvoir de rester longtemps sous l'eau sans respirer et la lévitation.
Et pour finir, voici un documentaire.
Camille va nous faire la présentation.
Je vais vous présenter un documentaire sur les principaux comportements des chats. Les chats sont des mammifères très connus et affectueux. Ils ont différents types de manières de communiquer. Quand les chats miaulent, ils ont souvent besoin de nourriture ou d'attention. Le ronronnement sert à montrer le bien-être. Le feulement ou le grognement signifie que le chat a peur, se sent menacé ou est inconfortable. Les chats ont aussi un système de communication corporelle, par exemple avec leur queue. Quand leur queue est haute, cela signifie qu'ils ont confiance ou qu'ils sont de bonne humeur.
Merci Camille, mais peux-tu nous expliquer quel comportement adopte un chat malade ?
Ça dépend. Par exemple, il peut être mou, tout mou, et il mange moins, il boit moins. Il change d'humeur aussi beaucoup. Le pelage est plus terne et il respire plus bruyamment et plus vite. Mais quand même, c'est mieux d'aller voir un vétérinaire si on n'est pas sûr.
Merci à tous pour ces présentations de livres et de documentaires super intéressantes.
Nous espérons que cela vous a plu.
C'était Cassandre, Claudio et Camille sur la chronique littéraire.
Et tout de suite, on écoute une chronique sur DeLorean de Johan.
Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'une personne qui a révolutionné l'automobile.
John DeLorean. John est né le 6 janvier 1925 à Détroit. Il n'a pas eu une enfance facile. Son père était violent, mais malgré tout ça, il s'en est plutôt bien sorti. Faut dire qu'il était intelligent. Comme tous les jeunes de son âge, il a commencé à s'intéresser aux voitures. Il trouvait que la voiture, c'était tellement cool qu'il allait en faire son métier. Et c'est comme ça qu'en 1953, il deviendra ingénieur chez Packard. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est normal, car cette marque est morte en 1958. Packard était une marque fiable, mais dans les années 50, 60 et 70, les voitures deviennent plus grosses, plus confortables et plus rapides. Packard avait tout pour faire une voiture rapide, sauf la boîte de vitesse. Leur boîte de vitesse était vraiment nulle. Pour relever le niveau, ils engagèrent donc John DeLorean. John a tenté de faire des boîtes automatiques performantes et il a réussi. Grâce à ce projet, John a eu la chance d'être recruté chez Pontiac. Pontiac était une bonne marque, juste un peu vieillissante. John DeLorean va être recruté avec une mission, rendre la marque plus jeune. John va trouver la solution, mettre un énorme V8, car les jeunes aiment beaucoup la vitesse. Pontiac avait les moteurs pour le faire, mais vous allez me dire pourquoi ne pas le faire. Alors, car c'est interdit. Les directeurs de chez Pontiac ne sont pas d'accord. Je cite, « La marque doit faire des voitures lentes ». John va tenter par plusieurs moyens de rendre la marque plus sympa. Il va essayer avec des slogans comme « On ne peut pas vendre la voiture d'un vieil homme à un jeune homme, mais on peut toujours vendre la voiture d'un jeune homme à un vieil homme ». En voyant que ça ne marche pas vraiment, John va réaliser l'impensable. Il va prendre une voiture déjà existante, en rajoutant un pack performance, un peu comme Ferrari. Il a un peu arnaqué les directeurs de la marque, car il a envoyé la voiture en disant qu'il y avait des packs options. Comme ça, les gens pouvaient réclamer ces packs. Comme les gens ont commencé à réclamer ces packs, ils ont été dans l'obligation de les envoyer. Et ça a marché. Ils ont réussi à remonter l'image de la marque en surfant sur la vague, en faisant des parfums et tout objet dérivé. En créant cette voiture, il a révolutionné l'automobile. John DeLorean a été recruté chez Chevrolet, car cette marque commercialisait des voitures dangereuses. Il n'est resté que 2 ans chez eux, car il est devenu vice-président de General Motors. C'est un peu comme s'il était vice-président de l'Amérique. On ne saura jamais ce qui s'est passé, mais il quittera General Motors en 1973. À ce moment-là, quand il quitte General Motors, il veut faire sa voiture. Il créa donc DMC, la DeLorean Motor Company. Il créa la DeLorean telle qu'on la connaît dans le film Retour vers le futur. Il la baptisera la DMC-12. Il va mettre un moteur rotatif. Pourtant, ce n'est pas un bon moteur. On l'apprendra quelques années plus tard. Tout était prêt. Il manquait que les financements. Margaret Thatcher lui a donné $1 million, à condition de travailler dans un village où il n'y a plus de travail. Le village était en pleine guerre civile, à cause des religions. Une partie des habitants était de religion catholique et une autre partie était de religion protestante. Pour ne pas faire de blessés, il créa 2 usines, un côté catholique et un côté protestant. Je rappelle que les gens n'avaient pas de qualification pour créer les voitures. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, l'usine se metta à brûler à cause de ce manque de qualification. À un moment, on s'est aperçu que l'argent va commencer à disparaître, alors que les voitures ne sont toujours pas là. Comment ça se fait? On n'aura jamais su. On soupçonnerait DeLorean d'avoir détourné ses fonds avec l'un de ses amis. Donc, comme il n'avait plus d'argent, il commença à faire précommander les voitures aux concessionnaires, alors que les voitures n'étaient pas du tout prêtes. Il restait un peu d'argent encore, donc il en a créé quelques-unes. Au bout d'un moment, les concessionnaires vont commencer à mettre un coup de pression à John DeLorean, parce que les DeLorean ne venaient pas. Anecdote, la voiture de la pub de DeLorean ne s'ouvrait plus juste après la prise. ils ont dû faire sortir la personne qui conduisait la voiture par la fenêtre. Pour rembourser les dettes qu'il accumulait, il va faire une opération avec la banque. Tous les gens qui avaient la carte Gold pouvaient participer à un concours pour avoir une DeLorean en or. Ça n'a pas beaucoup marché. Un jour, un de ses amis proposa de dealer de la drogue avec un grand trafiquant. Son ami était un flic infiltré. Il s'est donc fait piéger et jugé. Il sera acquitté car les preuves n'étaient pas recevables. J'espère que ça vous aura plu. Mesdemoiselles et messieurs, au revoir.
Merci à tous pour votre écoute. Merci aux élèves du Club Radio. Merci à Claudio, Camille, Cassam, Sadi, Gabriel, Samy, Raphaël, Madeleine, Louise.
Raphaël, Maya, Johan, Iman, Noah, Céleste, Ulysse, Alexis et Barry. Et pour finir, merci Madame Rosner et Léa. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles émissions.
Radio Vaillant, la radio qui donne la pêche.
Radio Vaillant, la radio des miaou miaou miaou.
Bienvenue sur Radio Vaillant, la radio du collège Édouard Vaillant.
Radio Vaillant. Radio.